Voilà, il y a 15 jours, on était sur un culte de reconnaissance. Voilà, pour ces locaux, puis on a fait un petit peu, on a commencé à parler. Voilà, les locaux, c'est bien, mais la présence de chacun d'entre nous, c'est mieux. J'aimerais juste vous rappeler, on avait parlé un petit peu, cette prière, cette dédicace de Salomon du Temple. Le Temple a été, pendant presque un millénaire, le centre du culte d'Israël. Un lieu où on pouvait venir trouver le pardon. C'est ce qui revenait un petit peu comme une litanie dans ce texte de Salomon. Voilà, s'ils reviennent à toi, s'ils viennent dans ce lieu, s'ils te prient, pardonne et exauce-les des cieux. L'Église est aussi un lieu de pardon et d'exaucement. Un lieu où tous peuvent venir prier, rencontrer Dieu. Et on a vu que Salomon priait aussi pour l'étranger. Que l'étranger soit accueilli dans le temple de Dieu. Et que les prières, que le pardon soient pleinement présents. Que tes yeux soient ouverts sur les supplications. Et on a vu que Salomon terminait avec cette bénédiction sur tout le peuple d'Israël. Bon, le temple est aussi une image de ce qu'est l'Église, le corps de Christ. On verra, moi, je trouve, j'aime la richesse qui est en Dieu, donc j'ai pratiquement une douzaine d'images sur ce qu'est la vie de l'Église. Mais comment, dans ce lieu, nous pouvons être ensemble en accueil du Dieu vivant? Dans l'Ancien Testament, le peuple de Juda, en tous les cas, beaucoup dans le peuple de Juda, s'était mis à part pour être la louange de Dieu. Juda veut dire louange à Dieu. Et souvent, dans les combats, quand ils ont gagné la terre promise, souvent ce peuple était devant, avec les instruments, avec la louange. Les Lévites n'avaient pas encore été institués. Et ils ont, guidés par leur louange, ouverts par leur louange, la conquête de Canaan. Un culte de louange, être un temple, une maison de louange. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour aujourd'hui? J'aimerais reprendre quand même juste le contexte où David a ouvert le temple de Dieu. On peut lire dans le livre 1 Chronique. Jean-Marc nous a lu 1 Chronique 4 la semaine dernière. On prend 1 Chronique 6 ce matin, les versets 31-32. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'initiation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. C'est-à-dire qu'il y a eu une liturgie pour que devant l'arche et dans le temple, il y ait toujours un temps de louange. Nuit et jour. On verra plus tard, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est toujours d'actualité. On poursuit dans le même livre, au chapitre 16, les versets 4 à 7. Il remit à des Lévites la charge de faire le service, la liturgie devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer le Dieu d'Israël. C'était Asaph le chef, Zacharie le second après lui, Jehiel, Shemirmot, Jehiel, je vous passe les noms, ils sont parfois durs à bien prononcer. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja, Jéchaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Est-ce que vous vous rappelez encore la première fois où la louange est montée dans votre cœur? Moi, je me rappelle comme si c'était hier. C'est-à-dire que c'était encore des mois après un temps de rencontre et de conversion. C'est un truc tout bête. Là. On dit, tu vas aller acheter du pain. Donc, ben, je suis parti aller acheter ma baguette. Et pendant que je partais, le matin même, elle m'avait parlé du pardon qui était en Christ. Des choses que je n'avais pas saisies. Ce jour-là, il y a eu une dimension supplémentaire. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui est monté. Waouh ! Alléluia ! Dieu m'a pardonné en Christ et quelque chose a jailli de moi qui n'était pas là avant. Pourtant, voilà, j'étais en marche avec Dieu depuis déjà des mois. Mais ce jour-là, ce fut pour la première fois que David, voilà, et ses collaborateurs ont fait monter les choses envers Dieu. Il y avait des cymbales, des harpes, des luttes, et on faisait sonner continuellement les trompettes. C'était de la musique, c'était pas que du bruit. Voilà, il y avait une atmosphère de l'IS, voilà quelque chose. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé hier les images, voilà, de tous ces gens ukrainiens à Kherson, toutes les jeunes filles, tout le monde, avec des voiles qui chantent, qui disent voilà, on est libérés, mais. Voilà, comment est-ce que dans nos cœurs, dans nos vies, quelque chose peut monter pour louer Dieu, une fois, deux fois, trois fois. On poursuit avec au chapitre 25, les versets 1 à 7. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Aiman, de Jedutun, qui prophétisaient en s'accompagnant de l'art, du luth et des cymbales. Voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, etc. Je ne vous cite pas tous les noms. Sous la direction d'Azaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. Jedutun, etc. Six sous la direction de leur père Jedutun, qui prophétisait avec l'harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Et on a plein de noms. Tous fils d'Aiman, qui était voyant du roi pour révéler les paroles de Dieu, pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aiman 14 fils et 3 filles, tout cela sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des luttes, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jedutun, Aiman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exerçaient au chant de l'Éternel tous ceux qui étaient habiles. J'aurais aimé être présent devant l'arche et dans le temple de la maison de Dieu. 1000 ans avant notre ère, les gens étaient encore joyeux et savaient jouer des instruments. Il y avait déjà des instruments développés, des luttes, des harpes, des cymbales, des trompettes. Et le texte nous dit trois fois, et il prophétisait. C'est dans l'expression de notre louange que quelque chose aussi peut naître, peut monter dans nos cœurs, dans nos esprits. Une parole de Dieu peut nous dépasser. Et on peut avoir envie d'exprimer la gloire de Dieu par des paroles prophétiques. Plus tard, après David, il y aura Saül, il y aura d'autres. Tout d'un coup, les gens sont saisis par l'Esprit de Dieu et se mettent à prophétiser. Du temps de Moïse, quand Moïse était avec les 70 anciens, tout d'un coup, les 70 anciens se sont mis à prophétiser. Et il dit que l'Esprit qui était sur Moïse est venu sur eux. Sur la vie de Saül, pendant un temps, il y a eu un mouvement de l'Esprit. Comment est-ce que ce mouvement de l'Esprit peut nous saisir. Voilà, quand on vit dans la louange, dans l'adoration, aussi au travers du chant. On poursuit dans le livre de Deux Chroniques au chapitre 5. On lit les versets 7 à 14. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire, dans la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche. Ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyait pas de dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, tous les Lévites qui étaient les chantres d'Azaph, Héman, Jelutun, leurs fils, leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, avaient auprès d'eux 220 sacrificateurs sonnant des trompettes. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments, célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours en ce, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Comment est-ce que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, peut être visitée au point que... Vous vous rappelez la Pentecôte, ils étaient comme pris de vin doux, un petit peu ivres. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une belle expérience que d'être environné, immergé dans la louange du peuple de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu peut répandre sa grâce, sa gloire, la nuée de Dieu, c'est-à-dire la gloire de Dieu, le feu de Dieu aussi. Une rencontre de sainteté, mais une rencontre aussi de joie, de louange, de puissance, de force. Simplement dire ces paroles, j'en parlais comment prier. Parfois dire, voilà Seigneur, parce que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Il y a tellement de textes, de phrases, de paroles de l'Écriture très courtes qui peuvent nous aider à prier. Voilà, il y a les apprentissages dans la prière. On a lu quelques textes de l'Ancien Testament. J'aimerais lire avec vous quelques textes du Nouveau Testament. Comment est-ce que ce culte, cette liturgie terrestre, peut rejoindre la liturgie céleste, la liturgie d'en haut ? On lit ensemble dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3, les versets 14 à 17. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Il y a 15 jours, je vous disais, voilà, c'est un culte d'action de grâce, de reconnaissance, de témoignage, de partage de comment Christ nous a accompagnés dans notre vie courante, et dans l'Église. Comment est-ce que ce culte qui avait lieu à Jérusalem devant la tente d'assignation, la tente du tabernacle, devant le temple, est-ce que c'est rayé de la carte? Non. Ça existe toujours aujourd'hui encore dans le peuple de Dieu. Je suis, nous sommes ce temple nouveau de Dieu. C'est Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc nous pouvons offrir à Dieu un culte de reconnaissance 24 heures sur 24. Vous avez été pour former un seul cœur, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Pas toujours facile. C'est un apprentissage qui n'est pas forcément facile. On est élevé avec toutes sortes de choses qui nous contrarient dans la vie. Certains sont plus contrariés que d'autres. Alors on dit en général, les Français sont un peu râleurs, un peu contestataires. Tous les peuples ne sont pas comme ça. Alors après, voilà, ça peut être aussi un bon signe de santé démocratique, de ne pas toujours non plus laisser imposer tout et n'importe quoi. Mais la reconnaissance n'est pas quelque chose de naturel. Pour moi, c'est quelque chose de spirituel qui vient ensuite dans notre relation avec Dieu. Exhortez-vous en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, pouvoir libérer le chant de l'Esprit, le chant de Jésus dans nos vies. Quand Israël a franchi la mer Rouge, il est dit qu'ils ont chanté le cantique de Moïse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as renversé le char, le cavalier, Pharaon, et puis tu nous as délivrés. Dieu nous entoure de chants de délivrance. J'ai souvent mon privilège, voilà, jardinier, c'est pas un métier intellectuel. On n'est pas tous les jours derrière un ordinateur. Moi, j'avais le privilège de pousser une tondeuse qui faisait beaucoup de bruit et de pouvoir chanter en langue une bonne partie de la journée. Après, si les gens me regardaient, ça m'était égal. Le bruit était couvert. Comment est-ce qu'on peut être accompagné, y compris dans notre quotidien, dans les moments de creux, de pause, pouvoir laisser le chant de l'Esprit se développer en nous et nous conduire dans cette victoire. Pour apprendre la reconnaissance, l'action de grâce, nous avons besoin de l'Esprit. Je ne peux pas être reconnaissant 24 heures sur 24 sans être accompagné par Jésus, par son Esprit. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit, soit dans notre quotidien et que cette vie de louange puisse remplir nos vies. Éphésiens, chapitre 5. Paul était un homme de louange, un homme d'adoration, un homme de l'Esprit. C'est pour ça qu'il nous a laissé ces courts textes, mais voilà, qui nous disent un petit peu ce qu'est le culte pour Dieu, avec Dieu. Éphésiens 5, versets 18 à 21. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Question bête, qu'est-ce que la soumission les uns aux autres vient faire là-dedans? rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pouvoir nous accompagner les uns les autres dans la louange. Je crois qu'il y a eu une parole ce matin, déposer nos colères, nos rancunes, nos amertumes, nos... ce qui brise un peu notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Pour cela, il faut accepter d'être épaulé, soutenu, parfois bousculé par les frères et sœurs, par le Seigneur, par les paroles prophétiques, par l'enseignement, par la prédication. Un coup de coude, un petit coup de pied dans les chevilles. Est-ce que nous sommes des sportifs spirituels ? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père, je le dis. C'est quelque chose qui transforme, qui change nos vies. La relation avec Dieu, on ne peut pas rester sans être pardonné, en étant toujours dans la revendication, dans l'amertume, dans la colère, dans la détresse, dans la pitié de soi. Parfois, l'Esprit nous accompagne dans les pleurs, dans les larmes, dans le retour à Dieu, dans à nouveau la compréhension, le retour à Dieu. Mais il nous accompagne aussi par simplement la joie. Ma mère était veuve, une cinquantaine d'années. Elle a dû travailler pendant 10-12 ans comme femme de ménage. C'est pas une femme que j'ai connue qui était joyeuse. Et puis, quand elle a pris son baptême d'eau avec un frère gitan, il a prié pour qu'elle reçoive ce don de la joie. Et après, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Il y a un retour à la vie. Vivre dans l'esprit, ça peut être aussi recevoir ce don de la joie. C'est aussi un don surnaturel. La joie du Seigneur est ma force. C'est aussi un don que l'on peut recevoir. C'est comme la sagesse. Voilà, demander. On a un chant qui dit « Seigneur, je te donne mes tristesses, je te donne mes... » Voilà, comment pouvoir recevoir. Jean-Marie dit souvent Philippiens, l'épître de la joie. Soyez toujours joyeux, c'est presque un ordre. J'aimerais partir tout au bout de l'écriture dans l'Apocalypse. On a vu le culte liturgique à Jérusalem, on voit le culte spirituel en Christ. J'aimerais voir avec lui maintenant comment est décrit ce culte liturgique dans l'Apocalypse. Il est toujours valable. Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, l'apôtre Jean ont vécu ce qu'est ce culte céleste. Je pense qu'ils ont été changés, transformés. Apocalypse, chapitre 4, les versets 6 à 11. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant, derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. » Les êtres vivants rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu ». de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Jean a eu ce privilège, comme Moïse, comme Ésaïe, Ézéchiel, d'avoir cette vision du trône de Dieu avec ses êtres extraordinaires et cette louange éternelle. Cette louange existe depuis le commencement du monde, mais avant le commencement du monde, et elle continuera après. Ces êtres vivants, ces vieillards, sont dans la prosternation, l'adoration du Dieu vivant. Ils le voient en face à face. Apocalypse, chapitre 5, on lit les versets 11 à 14. « Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Les êtres vivants, les vieillards, leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. » Les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Un jour, nous serons participants à cette louange éternelle. Mais en attendant, nous avons le privilège, la possibilité, déjà de partager quelque chose de la louange du ciel. L'Église est le lieu où cette louange septuple, c'est-à-dire cette fois, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, et louange, pouvoir se laisser envahir et déborder par cette gloire que Dieu veut nous donner, qui est en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ. Paul a eu parfois de la peine à dire, à raconter tout ce qu'il a vécu. Il dit, une fois ce que j'ai vécu, je suis incapable de... C'est-à-dire, j'ai entendu, j'ai vu des choses merveilleuses. Nous n'avons pas tous le privilège de vivre des moments forcément aussi intenses. Mais nous avons tous le privilège de pouvoir, de manière volontaire, rendre au Christ, à l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, voilà, pouvoir lui dire notre joie, notre paix, notre bonheur d'être avec lui. Les quatre êtres vivants disaient « Amen ». Peut-être simplement pouvoir dire « Amen ». Seigneur, en vérité, tu es vrai. Tu es le vivant. Jean-Marc parlait de la prière tout à l'heure. Voilà, moi, ça a été aussi un escalier pour prier en public, un apprentissage. Au minimum, c'est se saisir dans l'écriture de toutes les phrases courtes qui sont adressées à Dieu. Il y a tellement de paroles, de phrases dites par des hommes, des femmes de Dieu dans l'écriture. Des prières, il y a des prières longues, il y a des prières courtes. Commencer par une prière courte et puis à un moment donné dire hey, Seigneur, j'y vais. Alors, bien sûr, c'est plus facile de chanter en chœur, de chanter ensemble. On n'a pas de trompette, on n'a pas de cymbales. On a les successeurs des luths. On a des guitares, des ukulélés. J'ai entendu cette semaine un instrument un peu extraordinaire. Un violoncelle qui a été construit dans les tranchées pendant la guerre 14-18. On ne peut plus jouer de l'original parce qu'il est abîmé, mais une jeune femme en a fait la copie. Et elle jouait, je ne sais plus, c'était un morceau de Bach ou de... Excusez-moi l'image, mais c'était un petit peu comme un... Ah, je trouve plus le mot, enfin une boîte où on met quelqu'un quand il est décédé, avec un manche et des cordes. Je trouvais que ça, voilà, ça avait une drôle d'allure comme instrument, mais elle en a joué quelque chose de tellement beau. Et je crois que c'était un instrument qui a été fait avec une charrette qui était là, le manche. Quel instrument je suis dans la louange, dans l'adoration à Dieu. La louange à Dieu est éternelle. Elle a toujours existé dans le ciel. Sur la terre, elle a existé pendant 1000 ans. David a institué une liturgie avec des chantres, avec une classe de musiciens spéciaux. Dans l'Église, nous sommes tous chantres. Je vais utiliser un mot barbare, hein. Nous sommes tous liturges, c'est-à-dire on a tous un rôle officiel dans l'Église. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des... Père Céleste, merci pour cette louange septuple à l'agneau de Dieu, à ton Fils, à ton bien-aimé. Seigneur, viens secourir nos vies et viens nous faire entrer dans cet apprentissage d'une louange continuelle, faire monter vers toi toutes ces paroles de reconnaissance. Merci d'inonder, d'immerger ton Église de cette reconnaissance éternelle. Voilà pour le salut, pour cet héritage que tu nous donnes. En Jésus. Seigneur, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Voilà, aide-moi à recevoir ta joie. Inonde chacun d'entre nous de cette joie de ton esprit, cette joie profonde de t'appartenir, de pouvoir être délivré. Amen.